Le verset d'acclamation de l'Évangile, aujourd'hui, nous l'accueillons avec une ferveur particulière. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Et lorsque nous mettons ce verset en lien avec certains passages de la première lecture que nous avons entendus, où Jean nous exhorte à aimer nos frères et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de la haine, mais qu'il y ait vraiment l'amour, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Alors nous comprenons qu'en ce premier vendredi du mois, en ce jour où nous vénérons particulièrement le Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, nous entrons dans cette intercession du grand prêtre éternel. C'est comme si nous nous adressions effectivement à tous les peuples de la terre pour leur demander, nous le demandons dans le silence de nos cœurs, par nos chants, par notre ferveur au moment de recevoir l'Eucharistie, par notre union à celui qui a voulu s'unir à notre humanité, nous pouvons leur dire aussi à notre tour, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur. Que tout homme de notre temps puisse effectivement faire l'expérience de cette miséricorde que nous célébrons particulièrement ici les premiers vendredis du mois. Saint Jean nous fait comprendre, peut-être aussi par allusion ou en filigrane, qu'il y a en fait une énorme chape de culpabilité qui pèse sur l'humanité lorsqu'elle ne reconnaît pas Dieu, lorsqu'elle demeure dans la mort, lorsqu'elle entretient la haine ou la rébellion contre Dieu, lorsqu'elle cultive ses œuvres qui sont mauvaises, à l'image de Caïn, jaloux des œuvres bonnes. Et donc, si le monde a de la haine contre vous, ne soyez pas étonnés, frères. Donc, il y a un combat spirituel. Mais en même temps, et c'est peut-être cela qui nous aidera à prier aussi pour nos adversaires, nos ennemis, nous comprenons, avec la compassion même du cœur de Jésus, à quel point tous ceux qui se révoltent contre Dieu s'enferrent et s'enferment dans une sorte de captivité, une chape de plomb, une chape de culpabilisation, dont ils ont besoin d'être libérés sans prendre pour autant les moyens qu'il faudrait. Alors c'est là où notre intercession, notre fidélité, voire parfois nos sacrifices, nos acceptations des épreuves en union avec le Christ et sa croix et sa passion peuvent effectivement avoir un impact que nous ne découvrirons qu'au ciel. Que tout homme puisse accueillir en ce temps de Noël, en cette nouvelle année, cette parole aussi de la première lecture. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Cette parole est très importante. Nous sommes parfois, nous les prêtres, je pense, assez souvent interpellés pour la dire à nos pénitents dans le confessionnal. D'une part, cette évidence que Dieu est plus grand que notre cœur cependant nous accuse, mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il connaît toutes choses. Le cœur de Jésus connaît nos cœurs. Il sait ce qu'il y a dans l'homme, dit l'évangile de Jean lui aussi. Il connaît toutes choses, ça veut dire qu'avec le verbe connaître dans la Bible, qui signifie beaucoup plus qu'une connaissance intellectuelle, c'est l'amour. Il connaît par le cœur, il connaît par l'intelligence du cœur, il connaît par la compassion, il connaît en toute vérité. C'est pour cela qu'il est infiniment miséricordieux, car il voit la source du mal qui peut tellement blesser ou détourner ou emprisonner le cœur de l'homme. Et donc cela, sachant cela, nous apaiserons vraiment notre cœur, car il connaît justement, Dieu connaît toutes choses. Il connaît tous les tenants, les aboutissants, les racines de ce qui nous fait souffrir. Et puis il y a encore un aspect, peut-être cela peut être l'objet d'une résolution en ce début d'année, des petites résolutions. On nous invite souvent à prendre des petites résolutions, car les grandes, on sait qu'on ne les tiendra pas très longtemps. C'est cette parole aussi de Jean. « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. » Peut-être que chaque soir, dans un très court examen de conscience, qui ne doit pas être un exercice de tension ou scrupuleux ou perfectionniste, mais simplement une remise aimante sous le regard de Dieu de notre journée, nous pouvons nous demander « En quoi ai-je aujourd'hui fait des actes qui ont rendu transparent la miséricorde de notre Dieu, y compris vis-à-vis peut-être de personnes avec lesquelles nous avons plus de mal dans nos relations. » Alors nous en arrivons maintenant à cet évangile où Philippe de Bethsaïde va rejoindre son frère Nathanaël. Et dans l'émerveillement de la découverte du Messie, il veut le lui partager. Et alors il commence par un grand argument scripturaire, biblique, à la manière un petit peu des rabbis. Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nous savons très bien que les évangiles sont très concis et très sobres. On peut s'imaginer que Philippe a fait tout un discours à son frère pour le convaincre, avec force arguments scripturaires. Pour aboutir à ceci, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nécessairement de Joseph, puisque c'est Joseph qui est de la descendance de David. Et que c'est de la descendance de David qu'on attendait le roi Messie. Et alors c'est là que Nathanaël entre dans cette dimension un peu de contradiction, de paradoxe, qui montre tout le paradoxe de l'incarnation du Dieu qui se fait pauvre, qui se fait homme. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? On sait par un autre passage de l'évangile de Jean que Nathanaël est de Cana en Galilée. Actuellement, lorsqu'on traverse Cana, actuellement, en Galilée, c'est une bourgade. Certes, elle a un petit peu grandi d'un point de vue touristique à cause de l'Évangile, mais sinon, c'est quand même une bourgade. Donc, ce n'est vraiment pas grand-chose. Alors, pour que Nathanaël de Galilée dise « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?», cela nous montre à quel point, à l'époque de Jésus, Nazareth était véritablement un trou perdu. D'autant plus que Nazareth n'était pas situé sur la grande route, sur le grand axe de la plaine d'Israël, qui traverse toute cette grande plaine, mais était complètement relégué derrière une montagne. Et donc c'était un trou, et justement, eh bien, c'est symbolique de celui dont on dit qu'il n'a pas voulu garder la gloire qu'il égalait à Dieu, mais qu'il s'est complètement dépouillé, anéanti jusqu'à se faire le plus pauvre d'entre les pauvres. Il a voulu vivre dans ce trou perdu, complètement loin de la face du monde, loin des médias, si on peut dire, loin de toute visibilité. C'est vraiment la vie cachée. Et il commence à en sortir maintenant, depuis son baptême, Jésus, il va commencer son ministère. Donc de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Et alors, Philippe, qui dit la parole même que Jésus avait dite aux deux premiers disciples de Jean-Baptiste, les deux premiers qui l'avaient suivi, « Viens et vois ». Alors il y a cette parole énigmatique de Jésus à l'égard de Nathanaël. « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Il affirme avec une certitude absolue, comme s'il le connaissait depuis toujours. Et à juste titre, Nathanaël va lui dire « Mais d'où me connais-tu ?» Alors Jésus, on peut dire que c'est une sorte de parole, on appellera ça une parole de connaissance ou de science, dit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Or le figuier est symbole un petit peu de la parole de Dieu. Lorsqu'un juif ou un rabbin se met sous l'ombre du figuier, c'est une manière de dire qu'il plonge profondément, qu'il scrute minutieusement les Écritures. Or scruter les Écritures minutieusement, y rechercher la présence de Dieu requiert une grande humilité et est totalement incompatible, effectivement, avec un esprit de ruse ou de perfidie ou d'hypocrisie ou de mensonge. Il n'y a pas de ruse en lui, dit Jésus. Il a perçu la soif de Nathanaël qui scrutait l'Écriture. symbolisé ici par le figuier. Or, tout juif à l'époque qui scrutait l'écriture, scrutait les signes des temps, nécessairement. Toute cette période qui a commencé avec le retour de l'exil de Babylone et qui a finalement va aboutir à l'avènement de Jésus, on appelle toute cette période la période de la tension messianique ou de la fièvre messianique. Israël qui a perdu toute autonomie politique, qui a retrouvé une liberté religieuse, mais qui a perdu toute autonomie politique, est constamment en train de guetter pour voir la venue de celui qui allait lui rendre cette autonomie, la liberté, la royauté en Israël. Et donc Nathanaël est un assoiffé des signes des temps qui annonceront la venue du Messie. Et c'est ce que Jésus a tout à fait perçu. Et lorsqu'il dit « Tu étais sous le figuier, je t'ai vu », Nathanaël a tout de suite compris qu'il ne l'a pas simplement vu physiquement de façon optique, mais qu'il a lu profondément la soif qui tenaille son cœur. Alors Nathanaël est tout de suite convaincu, il a compris la parole, il a compris le message, il dit « C'est vraiment toi le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Et alors Jésus va maintenant lui donner le signe que peut-être Nathanaël attendait. « Je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, c'est pour cela que tu crois, tu verras des choses plus grandes encore ». Et là, Jésus va évoquer un des passages fondateurs de l'alliance éternelle que Dieu a voulu faire avec Israël en la personne de Jacob, en une période d'épreuve où Jacob fuyait devant la fureur de son frère Ésaïe et Ésaü. Eh bien, il fuyait et en chemin, dans le désert, il se couche. Et de la nuit, il a ce songe qu'on appelle l'échelle de Jacob, où on voit les anges monter et descendre. Et là, Jésus révèle à Nathanaël et à ceux qui l'écoutent aussi, qu'il est finalement lui-même cette échelle, ce véritable médiateur entre le ciel et la terre. C'est le Verbe éternel divin qui est venu se faire l'un de nous, qui s'est fait homme pour nous rendre Dieu. Cet admirable échange. Dieu se fait homme pour nous diviniser, pour nous rendre Dieu, pour nous permettre ensuite de monter avec lui. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors, nous voyons en Jésus cette échelle qui nous conduit de la terre au ciel. Et là encore, je sais que peut-être je rabâche un petit peu des choses que j'ai souvent dites ici, mais c'est un passage qui m'émerveille tellement. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas. Je me prends à témoin que ce n'est pas de la sénilité, puisque je le fais en toute connaissance de cause. Mais je pense à cette magnifique parole de Charles de Foucault, qui dit « Mais quel est le lien, quel est le pont, Seigneur, entre ta gloire, ta majesté éblouissante, ta pureté incandescente, ta sainteté absolue ?» Et mon extrême misère, l'ordure de ma vie, la boue dans laquelle je suis, quel est le pont ? Ou l'échelle, traduisant par l'échelle aujourd'hui. Alors il donne la réponse, l'échelle ou le pont, eh bien c'est votre cœur, dit-il. Voilà, c'est dans votre cœur que peuvent se rencontrer l'ineffable sainteté, inaccessible par nature à ma nature pécheresse, mais que peuvent aussi se rencontrer mon extrême misère, puisque vous vous penchez avec une infinie miséricorde sur toute la boue de ma vie, etc. Donc cette admirable réflexion de frère Charles, de Charles de Foucault, nous donne en ce premier vendredi du mois un grand courage, j'allais dire, pour aller à la rencontre du Seigneur et pour laisser l'amour de son cœur descendre dans nos cœurs si blessés, qui nous accusent si souvent, pour que nous soyons profondément guéris et que finalement nous accédions à cette divinisation pour laquelle le Verbe divin s'est effectivement fait homme. Amen.